Merci beaucoup, merci Alain, pour cette invitation et aussi pour ce sujet, le modèle anglo-américain. Donc, je vais commencer par considérer la question, est-ce que ça existe? Oui, peut-être, dans un sens, il y a un modèle anglo-américain dans le droit commercial, un modèle des pays de la common law, mais peut-être il y a deux modèles, c'est un modèle américain et aussi un modèle britannique. Quelles sont les grandes différences entre les pays de la common law et les pays du droit civil? Je vais présenter des images sur cette question qui démontrent dans un sens le processus du développement du droit commercial dans certains pays assez récemment. Et la méthodologie que j'ai utilisée ici, nous avons appelé en Cambridge la leximétrie, c'est la nouvelle science de mesurer le droit. Mais c'est un petit peu controversé parce que Albert Einstein lui-même a dit, non sur la leximétrie, mais sur les autres questions très complexes dans la méthodologie scientifique. C'est plus simple en anglais, mais Einstein a dit que not everything that counts can be counted, and not everything that can be counted counts. Oui, c'est vrai, mais c'est très utile de temps en temps mesurer quelque chose. Et nous avons essayé de mesurer le droit, suivant l'exemple de l'équipe de Harvard, André Schleifer et ses collègues. Mais nous avons développé des indices historiques. Et ces indices montrent qu'il y a eu assez récemment une grande convergence entre les pays de la common law et les pays du droit civil dans le droit commercial, dans le sens de la protection des actionnaires. Et donc, on peut observer ici que ces deux lignes se convergent. Et maintenant, la différence entre les pays de la common law et les pays du droit civil n'existe guère dans la protection des droits des actionnaires, dans le droit formel, le droit écrit. La pratique est différente, mais il y a eu une très grande convergence et aussi une convergence entre les pays industrialisés et les autres pays, les pays en développement et aussi les pays dits en transition, les pays en transition de la socialisme vers le capitalisme. Ils ont tous adopté les règles pour la protection des actionnaires dits minoritaires dans les marchés des capitaux et à l'intérieur de l'entreprise. Donc, il n'y a pas une très grande différence maintenant dans le droit commercial, mais il y a toujours une grande différence dans le droit du travail. C'est vrai que dans les pays du droit civil, les salariés sont beaucoup plus protégés dans la législation sur la protection de l'emploi, les licenciements, etc., beaucoup plus protégés dans le droit civil et aussi dans la co-gestion et ses équivalentes. Par exemple, le droit de voix des employés, des salariés dans le droit français, dans leur comité d'entreprise et dans le droit allemand, il y a beaucoup plus de la protection pour les salariés à l'intérieur de l'entreprise dans le droit civil que dans les pays de la common law. Et aussi, il y a une certaine différence entre les pays industrialisés et les autres pays. Donc, il y a les différences, mais peut-être ce n'est pas toutes les différences que semble très évident maintenant dans le débat. Si on veut se demander quelle est la différence la plus importante dans la pratique entre ces systèmes, il faut considérer la notion de la primauté actionnariale ou du valeur actionnariale. Dans les pays de la common law, on dit que l'on observe dans la pratique, peut-être, la pratique des entreprises, des grandes entreprises, la notion de la primauté des actionnaires. C'est-à-dire que le but de l'entreprise est la maximisation du valeur actionnariale. Donc, c'est l'obligation des managers, des dirigeants de faire ça. Ou peut-être il y a l'idée que l'entreprise est la propriété des actionnaires. On entend ça dans les débats publics dans la Grande-Bretagne maintenant, et aussi dans la théorie de l'agence, la théorie financière, la théorie économique. La théorie de l'agence nous dit que Les managers sont les agents des actionnaires. Et donc, le rôle du droit commercial et de la corporate governance, de la gouvernance de l'entreprise, les codes de conduite, etc., est de minimiser les coûts de transaction dans ce rapport entre les principaux et les agents, les actionnaires, les managers. Il faut réduire les coûts de transaction pour maximiser la valeur de l'entreprise. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Il faut aligner les intérêts des managers avec ceux des actionnaires par les contrats et par les règles de l'entreprise dans le droit commercial. Par exemple, dans le droit fiscal aussi, les stock options, les options d'achat des actions, on peut les encourager par le droit fiscal. On a fait ça. Aussi, on peut encourager les offres publiques d'achat des OPA dans le droit anglais ou la pratique anglaise dans le droit américain. C'est assez facile faire une OPA. C'est plus difficile dans les pays du droit civil pour certaines raisons. Il y a des autres institutions. L'indépendance du conseil d'administration, très très important en pratique aux États-Unis et aussi dans la Grande-Bretagne. Ce n'est pas une règle juridique, mais c'est un aspect des codes de conduite et les règles des bourses. Le régime spécifique pour les sociétés cotées encourage beaucoup l'idée de l'indépendance du conseil d'administration. Donc, le rôle du conseil d'administration dans les pays de la common law est la surveillance et non le management de l'entreprise, dont les dirigeants, les administrateurs sont devenus ceux qui surveillent les managers et peut-être le seul dirigeant qui est aussi un manager est le président directeur général ou son équivalent dans le système américain. Aussi, dans les marchés des capitaux et dans les règles pour les sociétés cotées, il y a cette pratique ou principe très important de la proportionnalité entre les investissements et les votes à l'intérieur de l'entreprise. Une action, un vote, one share, one vote, c'est très important pour la liquidité des marchés des capitaux et cette idée de la proportionnalité entre les investissements et les droits de contrôle à l'intérieur de l'entreprise. Ce n'est pas une règle juridique dans la Grande-Bretagne, mais c'est une pratique pratiquement universelle dans la cité de Londres que les grands actionnaires, les fonds de pension insistent sur ce principe d'une action, un vote. Alors, ce sont les caractéristiques du modèle dit anglo-américain, mais c'est très important de souligner que la théorie de l'agence n'est pas complètement réalisée dans le droit commercial. La pratique, le droit, sont tout à fait différents dans ce respect, ni même dans les codes de corporate governance. La théorie de l'agence ne décrit pas très bien la situation juridique dans le droit commercial. Donc, c'est évident que dans le droit, les dirigeants, les administrateurs ne sont pas les agents des actionnaires. C'est absolument clair dans le droit, dans la pratique ou dans l'idéologie de la théorie de l'agence, peut-être, mais dans le droit, les dirigeants, les administrateurs, bien sûr, sont les agents de la société. Et la société est une personne séparée des actionnaires. C'est absolument clair, et dans le droit américain, et dans le droit anglais commercial, que l'entreprise n'est pas la propriété des actionnaires. Les actifs de l'entreprise, les usines, les patentes, toutes ces choses, ce sont la propriété de la société. La société est une personne morale séparée des actionnaires. Et donc, nous avons ici deux types de la propriété. C'est très important de distinguer donc, entre les actifs, ce sont la propriété de l'entreprise, et les actions, l'equity capital. C'est une autre forme de la propriété. C'est très, très clair dans même dans le droit américain et dans le droit anglais, que les actionnaires ont la propriété dans leurs actions et non dans les actifs de l'entreprise. Et c'est évident, c'est très important pour la division du travail entre les managers et les investisseurs. La terre et l'agence ne peuvent pas expliquer cette réalité de l'entreprise, mais c'est très important en pratique. Il y a des autres théories dans l'économie qui peuvent l'expliquer un petit peu plus clairement, les théories institutionnelles, mais la théorie de l'agence, c'est une grande réduction de la réalité. L'entreprise est une personne, ce n'est pas une chose. L'entreprise n'est pas la même chose que la société. Donc, il y a ces deux choses différentes encore une fois. La société, c'est une personne légale. L'entreprise n'existe pas comme personne dans le droit, dans aucun pays. Il y a ces deux choses différentes, société, entreprise. Il y a un lien entre les deux, mais il faut se rappeler que ce sont des différentes choses. Est-ce qu'il y a donc une obligation sur les managers ou sur les administrateurs de l'entreprise américaine ou britannique de maximiser la valeur actionnariale? Non, ce n'est pas une obligation juridique. L'obligation dite fiduciaire du conseil d'administration est d'agir dans l'intérêt social. C'est le même qu'en droit français, c'est-à-dire dans l'intérêt de l'entreprise comme telle. On parle, c'est vrai, en droit anglais, d'une conception de l'intérêt social qui est assez proche de l'intérêt des actionnaires, mais ce n'est pas la même chose. On dit de cette notion de valeur actionnariale éclairée, enlightened shareholder value. Nous sommes très éclairés dans la Grande-Bretagne, nous espérons sur cette question. Cette notion du valeur actionnariale éclairée est maintenant implantée dans la législation commerciale anglaise. Mais ce n'est pas exactement la même chose que la valeur actionnariale dans le sens de la théorie de l'agence, parce que le conseil d'administration d'une société britannique a une certaine marge d'action sur la question de l'échelle de temps pour la réalisation de la valeur actionnariale. C'est absolument clair que l'on peut prendre une vue de très long terme sans briser l'obligation fiduciaire du conseil d'administration. Dans des autres respects aussi, il y a des différences. Il y a des différences entre les deux systèmes, le système américain et le système britannique. C'est très clair en droit américain que, par exemple, le conseil d'administration peut résister un OPA s'il considère qu'une offre sous-estime la valeur de l'entreprise, pas la valeur actionnariale. Le conseil d'administration américain peut considérer les intérêts des autres parties prenantes, les intérêts des travailleurs, par exemple, sauf dans la situation d'une multiplicité des offres par des différents soumissionnaires, c'est-à-dire des enchères, une auction. Sauf dans la situation d'une auction, la société cible, Target Company, peut se défendre aux États-Unis contre un OPA par le mécanisme de la pilule empoisonnée ou poison pill. C'est tout à fait possible dans le système américain. C'est plus difficile dans la Grande-Bretagne. Pour une société cible dans un OPA dans la Grande-Bretagne, c'est très difficile de se défendre, de résister, même s'il y a une seule soumission. Mais ce n'est pas le résultat du droit commercial. C'est autre chose, c'est l'effet des règles pour les sociétés cotées dans la cité de Londres, self-regulation ou soft law, dans le code de conduite sur les OPA, le takeover code. Ce n'est pas la conséquence du droit. En réalité, c'est absolument libre faire un OPA dans la Grande-Bretagne. Il y a la plus grande liberté d'aucun pays dans le monde pour faire un OPA et les sociétés cotées britanniques sont les plus exposées à cette force du marché des capitaux. Mais ce n'est pas une conséquence du droit comme telle. S'il y a une différence fondamentale entre les systèmes, entre les systèmes de la common law et les systèmes du droit civil, Je pense que c'est dans la structure de la propriété des actions dans ce pays. Ce n'est pas une distinction juridique ou même une distinction dans la réglementation ou dans les codes de conduite ou dans l'idéologie, mais c'est très pratiquement, c'est très important, la structure de la propriété des actions est absolument différente dans ces pays. Dans la France et dans l'Allemagne et dans les autres pays de l'Europe continentale, la structure de la propriété des actions est dite concentrée. Et dans l'entreprise et dans les marchés de capitaux, c'est-à-dire il y a normalement un bloc des actionnaires dominant dans l'entreprise française ou l'entreprise allemande. Ce n'est pas normal aux États-Unis ou dans la Grande-Bretagne. La propriété dans les actions et dans l'entreprise et au niveau des marchés de capitaux est dit dispersé. Donc, dans un sens, les actionnaires sont assez faibles à l'intérieur de l'entreprise, dans la société britannique ou américaine. Les actionnaires dits concentrés dans une société française ou allemande sont beaucoup plus puissants que dans le système britannique. Donc, si on parle du pouvoir des actionnaires, il faut spécifier quel type de pouvoir. Dans le système britannique, il y a, dans le sens d'Alfred Hirschman, il y a le droit de sortie, le right of exit. Il y a un droit de sortie dans le sens que dans un marché très liquide, il est toujours possible d'acheter des actions. Il y a la très grande liquidité pour les actionnaires. Ils peuvent quitter l'entreprise, réorienter leurs investissements dans le cas où ils pensent que les managers ne sont pas très bons à faire leur emploi. Dans la situation d'une grande entreprise allemande ou française, c'est beaucoup plus difficile de sortir pour les actionnaires. Donc, les actionnaires dans la société française ou dans la société allemande ont les droits de voix à l'intérieur de l'entreprise beaucoup plus puissants que les droits des actionnaires dans les États-Unis ou dans la Grande-Bretagne. Par exemple, le droit commercial américain, c'est en pratique le droit de Delaware, de l'État de Delaware, permet le retranchement des membres du conseil d'administration, entrenchment of the board, par la pratique du conseil dit échelonné, staggered board. C'est très difficile aux États-Unis de prendre le contrôle dans l'Assemblée générale de la société. Par contre, dans la Grande-Bretagne, c'est beaucoup plus facile. Un vote d'une simple majorité des actionnaires sous le principe d'une action, un vote, toujours peut remplacer un membre du conseil d'administration. Donc, pour les actionnaires britanniques, l'Assemblée, le vote dans l'Assemblée générale est crucial pour prendre contrôle, mais aux États-Unis, la faiblesse des actionnaires dans l'Assemblée générale est compensée par des règles beaucoup plus flexibles pour les litiges en forme de recours collectif, class action. C'est possible aux États-Unis, c'est pratiquement impossible dans la Grande-Bretagne, dans le droit commercial anglais. Donc il y a des différences, même entre les États-Unis et la Grande-Bretagne dans ce sens, et des différences même plus importantes, oui, dans les pays de la common law et les pays du droit civil, dans la propriété, la structure de la propriété, et aussi cette différence entre droit de sortie et droit de voix, ce sont les différences les plus importantes. Je pense que les problèmes pour la société dite anglo-américaine maintenant sont les problèmes dans un sens de l'incomplétude du droit et la grande influence des marchés des capitaux dans ces deux pays. Les acteurs se comportent comme si les actionnaires soient les propriétaires de l'entreprise. C'est l'influence de la théorie de l'agence dans l'économie, dans les universités, même dans la vie politique. La théorie de l'agence, auparavant, c'est très clair, c'est très logique. Elle a marginalisé les subtilités du droit commercial. et l'absence d'aucun rôle pour les travailleurs dans la gouvernance de l'entreprise, dans la société américaine ou la société britannique aussi est très important. L'absence d'un système de co-gestion, c'est très important. Les codes de conduite, soft law, les codes sur la gouvernance de l'entreprise, le code Cadbury des années 90, et le code gouvernant les OPA dans la Grande-Bretagne, évidemment reflètent d'un certain degré l'idéologie de la primauté actionnariale. Les conséquences sont très très sérieuses. Les conséquences sont insécurité pour les travailleurs, la concurrence déloyale entre les États, les risques pour la santé physique et psychique des personnes, c'est la conséquence de la financiarisation des entreprises, l'idée, comme j'ai dit, que le but de l'entreprise est de maximiser la valeur actionnariale. Que faire? C'est très difficile. J'ai suggéré dans un papier qu'il faut réorienter nos notions de l'entreprise et peut-être réexaminer le modèle juridique de l'entreprise, même dans les pays de la common law. Ce n'est pas un modèle de la financiarisation. C'est un modèle où il y a ce mystère au cœur de l'entreprise. C'est le mystère de l'entreprise qui est la propriétaire, peut-être personne. Il y a cette personne morale, cette personne juridique, la société qui est la propriétaire, mais qui contrôle cette organisation, cette personne. C'est difficile à dire, peut-être les managers, peut-être les actionnaires, quels sont les droits des travailleurs. Dans le modèle juridique et dans les pays de la common law et dans les pays du droit civil, l'entreprise n'existe pas comme personne, comme concept spécifique, juridique, mais la pratique de l'entreprise et l'organisation juridique de l'entreprise nous disent que peut-être il y a beaucoup des droits de propriété à l'intérieur de l'entreprise. Il y a beaucoup de revendications sur les actifs de l'entreprise. Les travailleurs, les actionnaires, l'État ont tous des certaines revendications sur l'entreprise et le rôle du droit est de préserver les ressources collectives, la propriété collective de l'entreprise. Il y a les droits de propriété des multiples parties prenantes dans l'entreprise. Et c'est l'idée que j'ai proposée de l'entreprise comme des biens communs. Dans l'économie institutionnelle de Eleanor Ostrom, les biens communs sont les manifestations de l'idée de la propriété collective. Et le rôle de la gouvernance des biens communs, governance of the commons, chez les travaux d'Ostrom, est de préserver la propriété collective, de préserver les ressources. Et peut-être l'entreprise est un petit peu comme ça, et le droit commercial est plus fidèle à cette notion que la théorie des légendes, et même maintenant la valeur actionnariale. C'est très important reconcevoir le droit commercial et la pratique et peut-être les théories de la finance et de l'économie pour faire le progrès dans cette situation qui est manifestement très, très importante pour l'avenir de l'entreprise dans tous nos pays. Merci.